Et si le meilleur hack de productivité pour votre lundi matin, ce n'était pas, je sais pas, un double espresso
Ouais.
ou une douche glacée ou la dernière application d'optimisation du temps, mais plutôt une architecture spirituelle ancienne et extrêmement structurée?
C'est vrai que c'est une question intrigante.
Ah ça oui. Bonjour à tous et bienvenue dans notre exploration du jour. Aujourd'hui, on va regarder comment un programme radiophonique bien spécifique parvient en fait à réorganiser de fond en comble notre façon d'affronter le début de la semaine.
Et c'est une perspective qui détonne totalement avec notre culture de la performance immédiate, tu vois.
Totalement.
En règle générale, notre réflexe face à la rentrée dans la semaine, bah, il est purement mécanique. On se force à démarrer, souvent en ignorant complètement notre état mental ou notre niveau de stress.
C'est le fameux mode survie, quoi. On serre les dents et on y va.
Voilà. On traite notre cerveau un peu comme un moteur qu'il suffit de faire vrombir, et puis c'est marrant.
C'est exactement ça. Mais notre plongée dans les documents d'aujourd'hui propose une méthode vraiment radicalement différente. On va examiner un enregistrement daté de ce lundi, donc le 24 août 2026. Il s'agit de l'émission Tambour Parlant Communication. C'est diffusé sur les ondes de Radio Tam Tam Afrique.
D'accord.
C'est un programme qui est présenté par Félicité Amania Ravin-Vincent et qui est réalisé par GV. Et la mission de notre analyse aujourd'hui, bah, c'est de décoder comment ce texte, qui se présente, tu sais, de prime abord comme une simple séquence de prières et de méditation,
Ouais.
comment ça déploie en réalité une ingénierie psychologique redoutable pour bâtir la résilience de ses auditeurs.
C'est ça qui est fascinant, parce que l'intérêt de ce document, il réside vraiment dans sa structure. Il ne s'agit pas juste de distribuer quelques pensées positives en l'air, genre tout va bien se passer. L'animatrice, elle construit un véritable cadre mental. C'est une progression hyper logique qui prend l'auditeur dans son état de vulnérabilité matinale.
Ah oui, le fameux lundi matin.
Exactement le lundi matin. Et elle l'amène étape par étape vers une capacité d'action concrète.
Alors commençons par la toute première étape de cette émission, parce que c'est peut-être la plus surprenante en fait.
Vas-y.
Avant même d'invoquer le divin, avant même de parler de louanges ou de quoi que ce soit, l'émission fait quelque chose de très terrestre. Elle valide les luttes intimes.
Ouais, tout à fait.
L'animatrice cite le psaume 136, genre « Louez l'Éternel car il est bon », mais immédiatement après, paf, elle s'adresse directement au fardeau universel de ses auditeurs.
C'est hyper direct.
Très direct. Le texte nomme avec une précision quasi clinique, je cite, « la souffrance silencieuse, l'inquiétude familiale, la difficulté professionnelle ». Et surtout, elle utilise cette expression qui m'a vraiment frappée.
Laquelle?
Elle parle de « la fatigue que personne ne voit ».
Ah oui, ouais. Ça, c'est en nommant cette fatigue invisible, en fait, le texte accomplit un travail psychologique colossal, et ce, dès les premières secondes.
C'est clair.
Parce qu'en neurobiologie, on sait que mettre des mots précis sur un ressenti douloureux, c'est ce qu'on appelle l'étiquetage affectif.
D'accord, l'étiquetage affectif.
Voilà. Et bah, ça permet de diminuer instantanément l'activation de l'amygdale.
L'amygdale, c'est bien la zone de la peur, c'est ça.
Exactement. C'est le centre d'alarme de notre cerveau. Donc, au lieu d'exiger de la positivité toxique, genre souris à la vie, l'animatrice, elle abaisse les défenses de l'auditeur. Elle lui dit en substance, votre épuisement est réel, il est légitime et vous n'avez plus besoin de le cacher.
Oh wow! Ce qui crée immédiatement un lien de confiance, du coup. On ne demande pas à l'auditeur de revêtir son armure pour affronter la semaine. On lui propose au contraire de la poser par terre, de s'en délester.
C'est exactement ça.
Et c'est seulement à ce moment-là, une fois que c'est fait, qu'intervient la dimension spirituelle, avec une prière adressée à la Sainte Trinité. L'auditeur est invité à demander une purification de ses pensées et de ses actes. Le texte précise qu'il s'agit de demander que notre bouche s'ouvre pour consoler au lieu de blesser, pour rassembler au lieu de diviser. Et on y demande, tu vois, explicitement d'être libéré de la colère, de l'orgueil, de la jalousie et du découragement.
Oui, et ce passage, il est fondamental parce que, en fait, il cible les émotions réactives. La colère, l'orgueil, la jalousie, sont des mécanismes de défense totalement naturels quand on se sent menacé.
Ou juste épuisé, non?
Ou épuisé, oui, épuisé par le monde extérieur. En demandant d'en être libéré, l'auditeur cherche à, en quelque sorte, nettoyer son disque dur cognitif. On passe d'un état défensif à un état réceptif.
Mais là, je dois admettre que j'ai quand même une petite réserve.
Ah bon? Dis-moi.
Bah, on est lundi matin. Le monde moderne nous demande d'être proactifs, tu vois, d'être des conquérants de notre semaine.
Ouais, il faut y aller, hein?
Voilà. Et si je passe les premières minutes de ma journée à dresser hyper consciencieusement l'inventaire de mes faiblesses, de mes hésitations et de mes fautes? Est-ce que je ne suis pas en train de plomber ma propre motivation? J'ai un peu l'impression que se focaliser sur ces failles au saut du lit, bah, c'est le meilleur moyen de rester sous la couette.
Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Mais en fait, c'est tout le paradoxe de la véritable résilience. Il faut vraiment dissocier l'aveu de faiblesse de l'autoflagellation.
Ok.
Ce que ce texte propose, c'est un mécanisme qu'on retrouve dans énormément de thérapies cognitivo-comportementales ou même dans les programmes de rétablissement, tu sais. C'est le lâcher-prise.
Le surrender en anglais?
Voilà, le fameux surrender. Parce que l'injonction constante d'être parfait, infaillible et perpétuellement motivé, bah ça consomme une quantité d'énergie mentale qui est gigantesque.
Ah, tu veux dire que c'est comme garder une application hyper gourmande ouverte en arrière-plan sur son téléphone. Ça te draine la batterie sans même que tu t'en rendes compte?
C'est l'analogie parfaite. Le fardeau de l'invincibilité, ça draine nos ressources cognitives. Dans la prière, le texte dit, je crois que c'est « lorsque nous tombons, tu nous relèves ».
C'est ça.
En prononçant ces mots, l'auditeur accepte en fait sa propre faillibilité. Il s'autorise à ne pas être un super-héros pour une fois. Et paradoxalement, cette acceptation fait complètement disparaître l'angoisse de la performance.
C'est fou.
Ça crée un espace de sécurité intérieure. On n'est plus dans la résistance, tu vois. On est dans l'apaisement. On repart à zéro, mais avec la paix du cœur.
C'est vraiment fascinant. Parce que la suite de notre document, elle prouve que cette introspection du début n'a rien de narcissique. Une fois que notre propre batterie est sécurisée, le texte effectue un mouvement de caméra impressionnant, je trouve.
Ah oui, l'échelle change totalement.
Mais complètement, hein. On quitte le jeu et les petites angoisses du quotidien pour s'ouvrir à la communauté. C'est presque un grand angle.
C'est ça. L'émission nous fait passer de la contemplation de soi à une intercession pour autrui. L'attention de l'auditeur, elle est soudainement dirigée vers ceux qui portent des fardeaux encore plus lourds.
Oui, le texte mentionne les malades, les personnes endeuillées.
Les personnes âgées aussi.
Exact. Les personnes âgées, les familles fragilisées, les chômeurs qui s'inquiètent pour leur avenir.
Et puis, le cercle de l'empathie s'élargit encore plus, tu vois. On dépasse largement les frontières du quartier ou du pays.
Oui, l'animatrice confie explicitement, et c'est très beau, l'Afrique, sa diaspora et tous les peuples du monde. Le texte, il évoque carrément les populations victimes des guerres, de la pauvreté, des déplacements forcés. Il va même jusqu'à réclamer que les dirigeants mondiaux soient touchés par la sagesse, par le sens de la justice et le respect de la dignité humaine. C'est un truc de fou. On bascule d'un lundi matin ordinaire dans sa cuisine à une conscience géopolitique globale.
Et psychologiquement, ce glissement vers le macrocosme y joue un rôle d'ancrage super puissant.
Comment ça?
Bah, souvent, la consommation de l'actualité mondiale, ça génère énormément d'anxiété.
Ah ça oui, le fameux doom screen.
Exactement. Parce que ça nous place dans une position de spectateur impuissant face aux horreurs. Mais ici, dans cette émission, les crises mondiales sont intégrées au sein d'une démarche d'empathie active, qui est la prière. L'auditeur ne subit pas les drames du monde, il en devient solidaire en esprit.
Tu sais, ça me fait penser à une règle très pragmatique, à un truc tout bête, celle du masque à oxygène dans les avions.
Ah oui, bien sûr.
On nous répète sans cesse, avant le décollage, de sécuriser notre propre masque à oxygène avant d'essayer d'aider la personne à côté de nous. C'est exactement le séquençage de cette émission, en fait.
C'est une super métaphore.
Si le programme avait commencé direct par lister les guerres mondiales, la pauvreté et les crises de réfugiés, bah le poids cognitif aurait été écrasant. L'auditeur qui est déjà fatigué par son lundi, il aurait implosé sous l'anxiété, quoi.
Totalement.
Mais comme on lui a d'abord permis de trouver un peu de paix intérieure, de lâcher ses propres fardeaux, bah il dispose désormais de l'oxygène émotionnel nécessaire pour soutenir les autres.
Ce séquençage, il est vital. Parce qu'il garantit que l'empathie ne se transforme pas en désespoir. Il replace aussi nos luttes personnelles, tu sais, dans une perspective beaucoup, beaucoup plus vaste.
Ouais, on relativise.
Voilà. Nos problèmes du lundi matin ne disparaissent pas, hein, mais ils sont ramenés à de justes proportions. Et c'est cette nouvelle solidité qui permet à l'émission d'amorcer, je pense, la transition la plus inattendue de ce document.
Ah oui, oui, le grand écart, là. Parce que là, après avoir prié pour la paix dans le monde, l'humanité et la diaspora, on s'attendrait à ce que l'émission se clôture sur une petite note douce, tu vois, un peu contemplative.
Genre musique zen et on se dit au revoir.
Exactement. Mais alors, pas du tout. Le texte bascule brutalement dans une section qui s'intitule « La méditation du jour ». Et là, c'est marrant, le ton divin laisse un peu place à une approche ultra pragmatique. C'est presque un plan d'action, quoi, d'une rationalité redoutable. On passe de l'intercession céleste à la gestion de projets terrestres.
C'est ça. L'animatrice déclare d'emblée « ce qui n'a pas fonctionné hier peut devenir une leçon pour aujourd'hui ».
Boum.
Et ça, c'est une restructuration cognitive super classique. Ça transforme l'échec perçu en données exploitables. C'est du feedback, en gros. Et pour matérialiser ça, l'émission déploie une méthode d'exécution autour de quatre piliers très concrets pour naviguer dans la semaine.
Et le premier de ces piliers, alors, c'est de fixer un objectif. Le texte conseille de choisir une direction très claire pour éviter de disperser son énergie inutilement. Et ça, c'est une réponse ultra directe à ce que nous appelons aujourd'hui la fatigue décisionnelle.
Ah oui, le fléau moderne.
Eh oui. Sans cap précis, notre cerveau s'épuise à évaluer chaque petite option, chaque distraction qui se présente. Choisir un objectif, c'est littéralement décider d'ignorer tout le reste.
Et c'est même une nécessité biologique. Notre attention est une ressource finie. Ce qui nous amène hyper logiquement au deuxième pilier de l'émission. C'est de préserver sa force intérieure.
D'accord.
Le texte recommande explicitement de ne pas laisser les paroles négatives, les critiques ou les peurs des autres éteindre notre lumière.
Ce qui est la conséquence un peu directe du premier pilier, non ? C'est presque une loi de la physique sociale. Dès l'instant où l'on se fixe en objectif et qu'on décide de sortir du lot, on s'expose inévitablement à la friction de notre environnement.
Ah bah c'est sûr.
Les doutes des autres viennent taper contre nos nouvelles résolutions du lundi.
C'est exactement pour ça que ce deuxième pilier s'apparente à la construction d'un pare-feu émotionnel, tu vois. Il légitime complètement le fait de poser des limites fermes face à l'extérieur.
Ensuite, le troisième pilier aborde la notion de travail avec discipline. Le texte rappelle que la réussite demande de la constance, de l'effort et de la patience, et qu'elle ne repose pas uniquement sur le talent.
Et c'est justement là, et là il faut qu'on en parle, c'est sur cette question de l'effort que je perçois une tension philosophique majeure dans le texte. C'est-à-dire ?
D'un côté, pendant la prière du début, on nous rassure en nous disant que Dieu marche devant pour ouvrir le chemin.
Ouais.
Ça relève de la providence pure, non ? L'idée qu'une force extérieure supérieure s'occupe de balayer les obstacles pour nous. Mais ici, avec ce troisième pilier, on nous assène une injonction implacable au labeur personnel, à la constance et à la sueur, quoi.
C'est vrai.
Comment l'auditeur est-il censé réconcilier ces deux idées ? Si le chemin il est déjà ouvert par avance, pourquoi s'épuiser avec une discipline de fer ?
Tu soulèves là le vieux débat entre le libre arbitre et la prédestination.
Rien que ça ?
Ouais. Mais ce texte le résout d'une manière très très fonctionnelle en fait. Dans cette architecture mentale, la foi spirituelle n'est jamais synonyme de passivité magique.
Ah, ok.
La providence, elle ouvre peut-être le champ des possibles. Mais attention, elle ne fera pas le travail à votre place. La foi agit ici comme le carburant psychologique qui permet de maintenir la discipline sur le long terme. Le quatrième pilier, et d'ailleurs c'est ça qui est bien pensé, de garder la foi.
D'accord, donc c'est lié...
Ouais, croire en Dieu, mais aussi croire en sa propre capacité à réaliser sa mission.
Je vois. L'animatrice le synthétise avec une formule qui ressemble carrément à un mantra de productivité de la Silicon Valley, tu vois. Elle dit « pensez grand, commencez humblement et agissez dès maintenant. Plantez aujourd'hui les graines de ce que vous souhaitez récolter demain. » C'est hyper responsabilisant.
Ouais, c'est puissant.
Vous êtes le jardinier, vous avez la graine, vous avez la terre, mais personne ne creusera le trou à votre place.
C'est une excellente image. Et ce qui est intéressant avec cette métaphore de la graine, c'est qu'elle introduit la notion de temps long.
Ah oui, la patience.
Une graine ne pousse pas en un jour. Ça exige de l'auditeur de tolérer la frustration de l'attente. Ce qui s'oppose, encore une fois, frontalement à notre obsession de la performance immédiate.
Sauf que voilà, moi je me mets à la place de l'auditeur. Penser grand, planter des graines, maintenir la discipline, bloquer les critiques, faire le pare-feu émotionnel, ça commence à faire beaucoup pour un seul lundi matin, hein.
Ah oui, c'est chargé.
Même avec toute la validation émotionnelle du début, la montagne à gravir pour accomplir tout ça, ça peut générer un vrai sentiment d'écrasement. Et c'est là que le document est intelligent, parce qu'il utilise sa pensée du jour et sa conclusion pour désamorcer complètement cette peur de l'échec.
Oui, c'est vraiment la clé de voûte de toute l'émission.
Mmh.
Pour éviter que l'appel à l'action ne se retourne contre l'auditeur en le paralysant, le texte introduit une image super visuelle. Je cite « Tu ne vois jamais le sommet ». Depuis la première marche. C'est normal, et c'est même nécessaire. Si tu voyais tout le chemin, tu pourrais abandonner avant de commencer.
Waouh !
L'idée centrale ici, c'est que le sommet ne se dévoile qu'à condition de rester en mouvement.
Tu sais, il m'arrive souvent de discuter avec des gens qui sont insatiablement curieux, des personnes qui ont d'immenses projets d'apprentissage ou des ambitions professionnelles très vastes. Et l'obstacle numéro un que j'observe constamment chez eux, c'est ce que l'on pourrait appeler l'hypnose du sommet.
L'hypnose du sommet, j'aime bien le terme.
Ouais, quand on passe son temps à regarder le sommet de la montagne, la différence entre l'endroit où l'on se trouve en bas et le but final, là-haut, ça semble tellement abyssal que le cerveau disjoncte, le coût cognitif perçu, il est si élevé qu'on choisit l'inaction, on procrastine, quoi.
C'est ça, l'hypnose du sommet, c'est une réaction totalement naturelle d'évitement face à une surcharge qu'on perçoit comme insurmontable. Ce que l'animatrice propose ici n'est ni plus ni moins que le principe des petits pas.
Le micro-stepping.
Voilà, le micro-stepping, tel qu'il est enseigné aujourd'hui en psychologie de la motivation. En décomposant une tâche gigantesque en unités minimales et immédiates, donc juste la marche suivante, eh bien on contourne la panique.
On axe son propre cerveau, en fait.
Exactement. On réduit drastiquement l'exigence cognitive. L'auditeur n'a pas besoin de savoir comment il va gravir toute la fichue montagne. Il a juste besoin de l'énergie nécessaire pour lever le pied et monter la marche qui se trouve juste là, devant lui.
Je cite à nouveau, c'est normal et c'est même nécessaire de ne pas voir tout le chemin. Mais quel soulagement d'entendre ça. C'est comme un droit à l'aveuglement partiel, tu vois, juste pour garantir le mouvement.
Ouais, ça déculpabilise.
Mais, et c'est important, ce mouvement ne s'opère pas dans le vide. Et c'est là que la conclusion de l'émission, elle nous ramène violemment à la réalité matérielle de ce que nous écoutons. Ce long voyage introspectif se termine par un appel très terrestre. Soutenir financièrement la radio Radio Tam Tam Africa.
C'est vrai, mais ne plus dire comment cet appel est formulé. C'est très subtil. Il n'est pas présenté comme une simple transaction commerciale, genre « donnez-moi de l'argent ».
Ah non, pas du tout.
Il s'inscrit vraiment dans la continuité directe du message précédent. L'animatrice, elle invoque le slogan de la station, qui est « La parole est une force », et elle demande aux auditeurs de contribuer pour préserver une parole africaine libre, associative et indépendante.
Ce n'est pas un appel au don classique, tu as raison. Après avoir construit l'individu, après avoir renforcé sa psychologie, apaisé ses peurs, on l'invite carrément à participer à l'écosystème qui lui a fourni cet outil. C'est donnant-donnant.
L'auditeur qui, 10 minutes plus tôt, était épuisé par sa fameuse fatigue invisible, il a été restauré.
C'est clair.
Il a traversé l'empathie globale, l'organisation pragmatique des 4 piliers, la déconstruction de la peur de l'échec avec la première marche. Il est désormais prêt à agir.
Et paf, l'action.
Voilà, la première action concrète qui lui est proposée, c'est de devenir un membre actif de cette communauté, en soutenant une structure associative indépendante. C'est vraiment l'aboutissement du processus de résilience. Passer du statut de récepteur passif qui souffre dans son coin à celui de créateur de liens sociaux.
C'est un véritable tour de force structurelle. Franchement, si on prend un peu de recul sur l'ensemble de notre exploration d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en retient véritablement? Au-delà de la forme religieuse, que certains pourraient voir comme un filtre ou un obstacle, ce document met à notre disposition un modèle mental d'une universalité vraiment frappante. Il nous montre comment orchestrer notre propre résilience.
Ouais, c'est un mode d'emploi.
D'abord, on valide nos émotions pour ne pas s'épuiser à lutter contre nous-mêmes. Ensuite, on se reconnecte au monde pour relativiser nos fardeaux et sortir de notre isolement. Puis, on structure notre énergie autour d'objectifs hyperdisciplinés. Et enfin, le coup de grâce, on tue la procrastination en refusant de regarder le sommet. On se concentre uniquement sur la marche qui est juste là devant nous.
C'est une cartographie psychologique ultra complète. Et sa force, elle réside dans le fait qu'elle traite l'être humain dans toute sa complexité, tu vois. Complexe sur le plan émotionnel, spirituel et pragmatique. Elle refuse complètement de séparer le besoin de réconfort du besoin d'action. Les deux marchent ensemble.
Ce qui me ramène, pour terminer, à ce fameux slogan puissant de l'émission « La parole est une force ». Nous venons de décortiquer comment les mots prononcés par une animatrice sur une radio associative pouvaient servir de véritables boucliers psychologiques et de moteurs pour la semaine. Mais ça soulève une question hyper fascinante pour chacun d'entre nous, je trouve.
Je t'écoute.
Si la parole extérieure possède une telle capacité de structuration face au chaos du monde, que se passerait-il si nous commencions à appliquer cette même ingénierie à notre propre monologue intérieur?
Ah ouais, très juste.
Si lundi prochain, au lieu de laisser notre petite voix interne répéter mécaniquement que la semaine va être longue, que ça va être difficile, on était épuisé, si nous décidions d'utiliser notre propre parole interne comme une force.
Ça changerait la donne?
Complètement. si nous choisissions consciemment les mots de notre propre réinitialisation pour décider des graines que nous allons planter aujourd'hui, ne pourrions-nous pas devenir, en fin de compte, l'animateur de notre propre espérance intérieure? C'est une réflexion que je vous laisse savourer, le temps de gravir votre propre première marche de la journée. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour une nouvelle exploration.